France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors qu'Israël et les États-Unis ont frappé l'Iran, Téhéran a riposté en visant des bases américaines en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Ces monarchies du Golfe, alliées de Washington mais voisines de l'Iran, se retrouvent donc directement exposées dans un conflit qu'elles cherchaient à éviter. Leur sécurité repose largement sur les États-Unis avec les bases américaines tout autour de la région, mais elles ne veulent pas être entraînées dans une guerre ouverte avec l'Iran. Alors comment ces pays du Golfe se positionne-t-il aujourd'hui face aux États-Unis, à Israël et à l'Iran? Que révèle cette crise sur leur place dans l'équilibre régional? Une invitée pour nous éclairer, Fatia Dazieni. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir rompu vos vacances. Vous êtes chercheuse spécialiste des monarchies de la péninsule arabique à l'IRSEM et à Sciences Po Lille. Vous avez fait paraître l'ouvrage intitulé « L'Arabie Saoudite en 100 questions ». C'est aux éditions Talendier. Merci d'être avec nous ce soir dans « Questions du soir ».
Un missile dont un fragment est tombé au sol avant d'exploser à Doha, la capitale du Qatar. Cela s'inscrit dans le cadre des représailles iraniennes suite à la campagne militaire massive et toujours en cours, lancée par les États-Unis et Israël à travers le pays.
Deux drones ont frappé l'ambassade américaine ici à Riyad. Selon les informations, les dommages seraient minimes et auraient provoqué un incendie. Nous n'avons pas encore d'informations sur des blessés.
Panique, chaos et blessés à l'aéroport de Dubaï. Dans la nuit de vendredi à samedi, après qu'un drone Shahzad a percuté un hôtel de luxe sur l'île Palm Jumeirah.
Pourquoi Fatia Dazieni, pourquoi l'Iran frappe-t-il aujourd'hui les monarchies du Golfe ?
Écoutez, en tout cas, les monarchies du Golfe ne sont pas surprises des frappes ciblant les bases américaines. L'Iran a plusieurs reprises, lorsque il y a eu une détente un peu régionale entre Riyad et les Émirats Arabes Unis, ils ont repris le dialogue avec l'Iran après la période Covid, on va dire. L'Iran, à chaque fois, disait aux monarques du Golfe, si l'Iran est pris pour cible par les États-Unis ou Israël, les premières attaques seront les installations militaires américaines.
C'était
dans
annoncé.
La région. C'était annoncé. En revanche, les attaques sur des cibles civiles, là, ont très franchement sidéré la population et ont paniqué les monarques, parce qu'ils avaient justement engagé tout un processus de détente et avaient effectivement diplomatiquement tout fait pour éviter cet engrenage. Ils avaient prévenu le président Trump qu'il risquerait de se retrouver dans une situation absolument chaotique et cauchemardesque. Et c'est le pire scénario cauchemar que ces monarques pouvaient imaginer. Ils se retrouvent aujourd'hui totalement coincés entre le marteau et l'enclume, parce que entre l'hégémon militaire israélien depuis l'après 7 octobre et les représailles iraniennes. Donc ils sont pris entre deux fronts.
On va revenir sur ces deux fronts, sur le marteau et l'enclume, mais avant ça, il peut être une chose aussi qui est rompue dans cette affaire, c'est l'image que ces monarchies du Golfe ont construite, avaient construite patiemment au fil des dernières décennies, un havre de paix, un havre de sécurité. Aujourd'hui, tout cela vole en éclats également.
Oui, bien sûr, et c'est ce qui inquiète le plus, à mon avis, ces monarchies, notamment le modèle des Émirats Arabes Unis. Tout le soft power des Émirats Arabes Unis, passé par Dubaï, par cette façade de ville-monde. Donc voir effectivement ces hôtels luxueux, Burj Al Arab et même Burj Khalifa tout à l'heure qui brûlait en partie, et tous ces hôtels luxueux, les infrastructures qui ont fait de Dubaï la ville-monde modèle. Effectivement, ces images vont marquer les esprits, clairement.
On a le sentiment, par ailleurs, d'une relative passivité, dans le même temps, de ces monarchies du Golfe, des représailles absentes, des déclarations, certes, prononcées en grande pompe, mais rien d'une réplique militaire réelle face à l'Iran.
Parce qu'ils veulent absolument éviter de rentrer en conflit ouvert avec l'Iran.
Donc, ils se laissent faire ?
Non, ils se laissent pas faire, puisqu'ils interceptent de manière assez massive quand même les attaques. Il faut avoir en tête que 50% des attaques iraniennes se sont concentrés sur la Fédération des Émirats Arabes Unis.
C'est colossal.
C'est absolument énorme, puisque le 50% restant étant sur Israël et les autres pays du Moyen-Orient. Donc là, moi, je pense qu'il y a aussi une volonté de l'Iran de punir les Émirats Arabes Unis, qui ont, depuis la signature des accords d'Abraham, clairement engager une très étroite coopération en matière de renseignement, de défense, de sécurité, et une sorte d'axe israélo-émirati était d'ailleurs de plus en plus dénoncé aussi par l'Arabie Saoudite.
Mais je vous embête parce que cela répond à moitié à ma question. Tout de même, quel pays reçoit sur sa population civile, sur des bases qu'elle accueille, qu'il accueille des bombes, des missiles et ne réplique pas?
Il réplique en interceptant, donc c'est défensif pour le moment. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ils ont tout fait pour éviter de rentrer dans cet engrenage. Maintenant, c'est vrai que les Iraniens étant dans une stratégie d'harcèlement, avec toutes ces attaques, risquent d'épuiser aussi les munitions de ces intercepteurs, et donc mettent les monarchies du Golfe devant un choix très quasi impossible, c'est-à-dire soit laisser les Américains utiliser leurs bases sur leur sol, ce qui est pour le moment pas encore le cas, soit effectivement et donc, dans cette manière, ils rentrent malgré eux dans cette guerre, mais de manière aussi un petit peu, comme vous dites, un peu passive. Parce qu'ils ne veulent pas, surtout pas, pour leur réputation, être accusés d'avoir rejoint cette coalition israélo-américaine contre l'Iran. Parce qu'ils ont aussi en horreur les changements de régime par la force.
On va revenir sur tout cela, mais peut-être commencer par le premier point que vous venez de soulever, cette question de réputation que souhaitent entretenir les monarchies du Golfe. Vous le dites, entrer en guerre, rejoindre cette coalition israélo-américaine, au fond, c'est se décrédibiliser à l'égard de la plupart des pays arabes qui les entourent, de la plupart des pays de la région ?
Oui, déjà, ils n'ont pas une réputation très reluisante. Ils ont une réputation
même dans la région, vous
de pion de l'Amérique, clairement. Mais là, s'adjoindre à une intervention israélienne serait beaucoup plus grave. Et notamment pour un pays comme l'Arabie Saoudite, qui abrite les lieux saints et qui, jusqu'à présent, avait essayé de ménager le fait, ils avaient annoncé effectivement une future normalisation avec Israël, mais en mettant des conditions. Depuis, effectivement, l'après-attaque du 7 octobre et ces guerres sans fin que mène le Premier ministre israélien, qui lui a une vraie stratégie de chaos dans la région. Alors que le président Trump, visiblement, navigue à vue. Et c'est ce qui inquiète au plus haut point ces monarques du Golfe. C'est que, visiblement, Trump n'a pas de stratégie. Et il se calque un petit peu sur la stratégie israélienne. Parce que eux, même si c'est le chaos, ils en ont une stratégie. C'est, par exemple, tenter de convaincre le président Trump d'embarquer, par exemple, les réfugiés kurdes iraniens réfugiés dans le Kurdistan irakien pour engager une offensive terrestre. Et là, Trump, qui annonçait pourquoi pas des troupes au sol, imagine ce type de scénario. Mais en suivant la logique israélienne, qui est de toute façon d'utiliser des minorités partout au Moyen-Orient pour affaiblir au maximum les pouvoirs centraux.
Si l'on fait un pas en arrière, Fatia Daziani, pourquoi ces bases états-uniennes implantées, inscrites dans le territoire des monarchies du Golfe? Quel est le contrat passé entre les États-Unis et ces États?
Il faut retourner à un tournant de l'histoire de ces monarchies et de l'histoire de l'architecture de sécurité régionale dans la région. C'est la deuxième guerre du Golfe, la guerre de libération du Koweït, si vous voulez. Très clairement, et même avant cela, bien entendu, il faut remonter un peu à l'histoire. Il y a eu des dates clés dans cette région en matière de sécurité.
Alors, il faut y revenir.
1979, l'établissement de la République islamique d'Iran. Ça, c'est un choc pour la région, puisque le Shah d'Iran était le gendarme du Golfe, donc l'allié de ces monarchies et des États-Unis. Arrive la République islamique, qui a un projet révolutionnaire islamique qui vient totalement en rivalité avec le projet conservateur de la monarchie saoudienne qui abrite les lieux saints et qui est un petit peu, qui patronne un peu, si vous voulez, l'islam. Donc, il y a ce moment-là. Il y a ensuite le déclenchement de la guerre Irak-Iran pendant 8 ans. Hein. Les monarchies vont financer, comme les pays occidentaux, les efforts de guerre de Saddam Hussein face à l'Iran pour éviter l'exportation de la révolution islamique. Et arrive un petit peu ensuite l'invasion par ce même Saddam Hussein du Koweït. Et là, mais conformément au droit international cette fois-ci, après le vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, une coalition de plus de 30 pays se coordonne sous la direction des États-Unis pour donc intervenir et déloger les Irakiens du Koweït. Donc, et après cette guerre-là, toutes les monarchies du Golfe vont contracter des accords de défense avec toutes les puissances, les 5 puissances du Conseil national de sécurité.
Du Conseil de sécurité de l'ONU.
Mais bien sûr, principalement, sachant que c'est les États-Unis qui avaient conduit cette coalition, eh bien, ce sont les États-Unis qui vont être un peu les parrains et garantir, si vous voulez, la sécurité de ces monarchies.
C'est un piège, Fatia Daziyeni, c'est un piège au fond, ces bases américaines inscrites sur le territoire des monarchies du Golfe. On a peut-être eu le sentiment un temps qu'elles pouvaient protéger les populations, protéger aussi les intérêts vitaux et les intérêts tout court d'ailleurs de ces monarchies. Et dans le même temps, très vite, elles ont pratiquement regretté le fait qu'elles soient présentes. Là aussi, plusieurs dates, 2003, l'intervention des États-Unis en Irak, c'est peut-être aussi le premier ébranlement. La politique d'Obama, le fait qu'Obama se tourne vers l'Indo-Pacifique et au fond se retire du Moyen-Orient. Ces monarchies du Golfe ont-elles même regretté présence de ces bases américaines sur leur territoire ?
Je ne suis pas sûre qu'elles l'aient regretté quand même.
En tout cas, qu'elles aient eu des doutes profonds réels.
Ah, mais elles ont des doutes, le fait que la garantie de sécurité américaine ne fonctionne pas, qu'ils se sentent totalement abandonnés. Vous avez très bien retracé les étapes. Vous avez raison de dire que 2003 est pour moi une date encore plus charnière que 1979 et 1990, que là, c'est le basculement.
L'intervention américaine en Irak.
Oui, absolument. Et qui était illégale. Hein, c'est là où le droit international a commencé à être violé. De manière vraiment énorme.
Pourquoi c'est une bascule pour les monarchies du Golfe ?
C'est une bascule parce que l'équilibre qui était que la plupart, enfin l'Irak était dominé par un pouvoir sunnite et lorsque Obama décide de retirer les troupes combattantes des États-Unis d'Irak, c'est un plateau d'argent offert à l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran va prendre le contrôle de l'Irak. Et là, les monarchies ont fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, l'Arabie Saoudite s'est totalement détournée du cas irakien parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Là aussi, en 2003, ils étaient contre une invasion américaine. Mais ils ne sont finalement jamais écoutés. On pensait que des MBS, MBZ, des princes héritiers aussi puissants et les autocrates aussi puissants aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, avaient l'oreille de Trump, et c'est absolument pas le cas. Là, elles ont l'impression que ces bases américaines sont dans la région davantage pour protéger Israël, clairement. Et c'est exactement ce que dit l'Iran aujourd'hui aux monarchies. Il leur dit, mais vous avez été piégés. C'est pas pour vous défendre que ces bases américaines sont là. Alors, en même temps, c'est tout le matériel américain permet en grande partie à ces monarchies d'intercepter tous les tirs de missiles, enfin, parce qu'il y en a eu des centaines.
Mais aurait-elle été attaquée sans la présence de ces bases militaires ? C'est toute la question.
Comment ?
Aurait-elle été attaquée sans la présence de ces bases américaines ?
C'est clair que c'est en tout cas le narratif iranien. Les Iraniens disent que c'est parce que ce sont ces bases américaines qui menacent aussi. Qui sont menaçantes pour l'Iran, c'est pourquoi, à titre de représailles, parce qu'ils ne peuvent pas atteindre Washington, eh bien, ce sont les bases américaines qui sont les premières cibles.
Je voudrais vous faire entendre la voix du ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud Al-Faisal. Il s'exprimait pour dénoncer le soutien de l'Iran aux Houthis du Yémen. C'était en 2015.
Les milices houthistes et leurs alliés, l'ex-président Saleh, se sont décidés, avec le soutien de l'Iran, à déstabiliser le Yémen et à brouiller les cartes. Nous ne sommes pas des battants de guerre, mais dès qu'on bat les tambours de la guerre, nous sommes prêts. La campagne Tempête décisive se poursuivra jusqu'à la réalisation de ses objectifs et jusqu'à ce que le Yémen redevienne un pays sûr, stable et unifié.
On dessine parfois l'opposition entre ces monarchies du Golfe et l'Iran selon une grille de lecture religieuse, un chiisme côté iranien, sunnisme du côté des monarchies du Golfe. Est-ce que c'est peut-être cela le prisme essentiel, Fatia Dazieni, pour comprendre ce qui oppose ces pays les uns aux autres, ou bien il y a d'autres grilles de lecture? Je pense notamment à la grille diplomatique, comme on vient de l'entendre.
Ah non, c'est un prisme que j'ai toujours trouvé très simpliste.
Le prisme religieux.
Oui, absolument. C'est tout simplement un prisme politique. C'est très clairement une rivalité pour la maîtrise et le contrôle de la région. Hein. C'est pas tant. Alors évidemment, le facteur chiite a été après 2003 justement, quand avec la chute de Saddam Hussein. Et le fait que l'Irak est repris en main par la communauté chiite, qui est effectivement majoritaire en Irak, mais où il y a eu aussi toute une le premier ministre, notamment Nouri el-Maliki, qui risque de revenir aux affaires, mais et qui a développé une politique extrêmement sectaire. Là, effectivement, la confrontation chiite-sunnite était à son apogée. Mais c'est clairement des projets politiques différents qui s'opposent, et pour le contrôle de la région, c'est des guerres d'influence, c'est très politique, beaucoup plus que religieux.
Par ailleurs, on parle depuis le début de notre discussion, et c'est ma faute, de monarchie du Golfe comme un bloc monocolore, monolithique, comme si au fond ces monarchies du Golfe étaient toutes unies les unes aux autres face à l'adversité. C'est peut-être le cas, mais si on remonte ne serait-ce que deux semaines en arrière, il y a bien une opposition entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, entre ces pays qui ne forment pas du tout un bloc uni, justement.
Ah oui, non, ils sont vraiment pétris de rivalité. Là, vous parliez de l'Arabie Saoudite face au Qatar. Là, vous faites référence il y a quelques années à la fameuse crise du Golfe. Mais de manière beaucoup plus forte, la confrontation qu'il y a eu entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis par terrain interposé au Yémen du Sud. Parce que les deux monarchies, les deux pays ont des conceptions rivales de ce que doit être l'ordre régional post 7 octobre.
Comment les décrire, ces conceptions ?
Alors, l'Arabie Saoudite a une conception assez classique consistant à toujours soutenir des États et des institutions étatiques, alors que les Émirats Arabes Unis se sont mis un petit peu dans cette dans la veine de ce que fait Israël dans la région, à savoir soutenir des mouvements séparatistes, minoritaires, etc., et ou des acteurs infra-étatiques, comme ils l'ont fait avec les séparatistes du Sud au Yémen, comme ils le font, par exemple, au Somaliland, comme ils le font au Soudan avec les forces de soutien rapide du général Hemeti. Et ces deux visions-là s'opposent. Et lorsque les séparatistes du sud Yémen ont fait une offensive terrestre jusqu'à des provinces frontalières du sultanat d'Oman et de l'Arabie Saoudite, ça a effectivement poussé l'Arabie Saoudite à réagir et là à demander à ce que les Émirats Arabes Unis évacuent toutes les positions qu'ils ont occupées pendant pendant 10 ans au Yémen du Sud, mais aussi ça a des incidences dans la Corne de l'Afrique. Et donc l'Arabie Saoudite dénonçait quasi un axe israélo-émirati, parce que au même moment où il y a eu cette offensive terrestre dans le Sud Yémen, Israël reconnaissait l'indépendance du Somaliland. Donc Là, vous voyez que ce sont deux projets qui s'opposent, et je pense que c'est parce que ces monarchies qui étaient structurellement dynastiques, familiales, avec une sorte de check and balance entre les différents clans, différents princes, se sont personnalisées sur des figures très charismatiques, Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite et Mohammed bin Zayed aux Émirats Arabes Unis. Ces deux monarchies qui se personnalisent, et là, on peut avoir effectivement des questionnements sur l'avenir de cette nouvelle, de ces nouvelles structurations de monarchie. C'est un vrai bouleversement structurel, alors que les monarchies dynastiques, jusqu'à présent, étaient très résilientes. Aujourd'hui, face aux menaces qu'elles affrontent. Alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a un réflexe de solidarité
et d'union face à l'adversité,
mais ça a été à chaque fois le cas lorsque il y a eu une menace très forte, mais aussitôt que cette menace se dilue, eh bien les vieilles rivalités réapparaissent.
Ces monarchies ont peut-être aujourd'hui, dans cette guerre, dans ce conflit, un point commun justement, c'est que aucune ne souhaite la fin du régime iranien.
Oui, parce que comme je vous le disais, le pire cauchemar pour ces monarchies, c'est d'imaginer d'être renversées. Hein, donc il y a aussi dans ce
logiciel... Donc ce serait l'idée d'un exemple, ce qui pourrait advenir en Iran, pourrait ensuite survenir dans les monarchies du Golfe ?
Non, mais il y a cela lorsque...
C'est l'effet printemps arabe, si je puis dire.
Voilà, absolument. Hein, absolument. Mais par-dessus tout, en Iran, pourquoi est-ce qu'ils sont contre un changement de régime ? Parce que ce serait le chaos. Enfin, les interlocuteurs précédents, je crois qu'on en ont parlé. Il n'y a pas d'opposition structurée. On ne sait pas vers où on va. Donc, mieux vaut un régime très affaibli qu'on connaît et qui essaie de se muter d'une manière transitoire. On n'aura jamais plus le modèle de la République islamique comme elle a fonctionné jusqu'à présent. Hein. Mais certainement un pouvoir un peu militaro-conservateur avec le système coercitif qui reste présent, parce que ces monarchies-là fonctionnent aussi sur des appareils sécuritaires très forts. Hein.
Est-ce que malgré tout l'Arabie Saoudite a été un allié de facto d'Israël dans la volonté particulière de marginaliser l'Iran ?
Alors, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, se sont d'ailleurs rapprochés d'Israël, en 2018. Ils étaient tout à fait d'accord lorsque le président Trump a déchiré l'accord, le JCPOA. Ils étaient vent debout lorsque
Obama... Sur le nucléaire iranien.
Oui, sur le nucléaire iranien. Lorsque le président Obama tentait justement une politique de détente avec l'Iran. Mm-hmm. Mais il est clair qu'ils ont changé complètement de logiciel depuis. Hein, très clairement, après les attaques du 7 octobre, ce qui a de plus en plus été perçu comme la menace la plus déstabilisatrice devenait de plus en plus l'hégémon militaire israélien, beaucoup plus que l'Iran qui était...
C'est une question cela qui unit ces monarchies du Golfe, le risque, entre guillemets, la menace persistante de la cristallisation d'une hégémonie israélienne à part entière ?
Écoutez, qui unit, je ne sais pas, parce que les Émirats Arabes Unis sont quand même très clairement pariés, ont fait le choix de la stratégie israélienne hein, dans la région. Alors, ils sont pas forcément d'accord sur cette reconfiguration chaotique, bien sûr, mais très clairement, ils ont fait le choix de la sécurité, de l'axe sécuritaire avec Israël, pour davantage s'attirer les faveurs des États-Unis. Maintenant, il est vrai qu'avec le chaos régional engendré par tous ces fronts de guerre initiés par Israël, c'est compliqué. Les Émirats Arabes Unis, aujourd'hui, effectivement, sont face à un certain nombre de dilemmes que l'Arabie saoudite a pu beaucoup plus... a su mieux gérer, dans la mesure où ils sont beaucoup plus en phase avec l'ensemble des États régionaux sur la question de la menace israélienne.
La question qui coûte très très cher, Fatia Dazieni, en quelques mots, comment les monarchies du Golfe aujourd'hui peuvent-elles s'en sortir? Comment peuvent-elles trouver une voie à dessiner pour elles-mêmes et par elles-mêmes dans ce conflit?
Ah oui, alors là, c'est vraiment la question.
Ah, je vous avais dit, hein, je vous avais prévu.
Non, elles essaient d'obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible, d'écourter au maximum cette guerre, de ne pas rentrer directement en confrontation aux côtés d'Israël face à l'Iran, ça c'est clair. Et il faudra quand même que ces monarchies du Golfe, effectivement, réfléchissent quand même à engager une mutualisation de leurs forces pour essayer quand même d'envisager une sécurité régionale avec leurs propres forces et pas simplement en restant aussi dépendant des alliés occidentaux qui ne sont pas toujours fiables, comme le montrent aujourd'hui les États-Unis.
Merci beaucoup, Fatia Dazieni, de ces éclairages, de ces analyses précieuses. Et merci également à celles et ceux qui ont fait cette émission, Bruno Barada, Bertie Bourdon, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.